Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années à partir de votre époque, une nouvelle trilogie Star Wars avait pointé le bout de son nez. Trois films, les épisodes 7, 8 et 9 de la saga, que l'on désigne comme la postlogie, en complément à la trilogie originelle, les 4, 5 et 6, et la prélogie, composée des films 1, 2 et 3. Oui, je sais, c'est un peu technique pour les nouveaux, mais faut suivre. Une postlogie donc, produite par Disney, qui on peut le dire, a été très loin de faire l'unanimité, mais pour laquelle j'ai tenu, ici sur cette chaîne, une position un poil plus... nuancée que la plupart des gens. Une position que d'ailleurs je maintiens, même si je vais revenir un peu dessus, histoire d'être très clair. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et aujourd'hui, on va parler du plus gros défaut de la postlogie Star Wars. Mais tout d'abord... Vous le savez, le temps est relatif, surtout dans l'espace. C'est pour ça que sur le Nexus 6, il est important de le mesurer correctement. Et ça tombe bien, car cette émission est en partenariat avec Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montres, bijoux et accessoires pour hommes et femmes, fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre et le marbre. Des matériaux nobles qui vous promettent des produits stylés et de qualité. Les produits Holzkern sont des cadeaux parfaits pour la Saint-Valentin. Bah oui, pour votre moitié, vous cherchez quelque chose d'unique, et les matériaux choisis, bah ils vous assurent des produits qui le sont réellement, parce que la veine du bois, la texture de la pierre, ça ne se répète jamais. Du coup, on a vraiment un objet personnel et singulier. Et puis c'est pas des cadeaux à la con là, dont on sait pas quoi faire au bout d'un mois, genre un extracteur de jus. En vrai, qui offre ça? Non, les créations Holzkern, c'est joli, original, ça se porte tous les jours, et rappelons que dans le cas d'une montre, bah ça indique qu'aussi l'heure quoi. Donc c'est pratique, on l'oublie. La Saint-Valentin, elle va pas tarder à votre époque, hein, d'ailleurs. C'est le bon moment. Nous, au 24e siècle, avec toutes les espèces différentes de la galaxie, c'est difficile de trouver un cadeau qui convient à sa moitié. Il y a des bras, des tentacules, des pinces et des trucs que je pourrais même pas vous décrire. Alors vous, vous avez juste deux bras. C'est quand même pratique, alors profitez-en. Et petit plaisir supplémentaire pour les fans de Star Trek parmi vous, et je sais qu'il y en a, Holzkern propose toute une gamme Starfleet Collection. Inspirée des différentes divisions de Starfleet, Command, Science et Opération, avec cette collection vous pourrez fièrement arborer les couleurs de votre section préférée. Perso, comme je suis capitaine, vous vous doutez bien vers laquelle je me suis tourné. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier d'une réduction de 15% sur tout le site avec le code Nexus, et pour toute commande effectuée avant la Saint-Valentin, vous aurez un sac cadeau en supplément. Il y a vraiment des modèles pour tous les styles, du plus minimaliste au plus original, alors faites-vous plaisir. Et maintenant, on retourne à votre émission. Inutile de se mentir, au global, la postlogie Star Wars est un échec artistique cuisant. Trois films malades, perclus de tous les défauts que le système de production de votre époque peut engendrer. On va y revenir. Néanmoins, je fais partie des défenseurs de l'épisode 7, qui, je trouve, a pour lui d'être une bonne introduction à ce nouvel arc. Des personnages que je trouve attachants, une action efficace, parfaitement appuyée par la patte à JJ. Vous le savez que j'aime le style de JJ Abrams, on va pas en parler. Un zeste d'humour qui correspond bien à ce qui se faisait dans la trilogie d'origine, tout en étant un peu plus moderne. Des effets spéciaux de qualité, et que vous le vouliez ou non, la mise en place d'axes narratifs que je trouve engageants. Des mystères, des liens familiaux, des lens flares, des défections comme on n'en avait jamais vu dans cet univers, des lens flares, un antagoniste au design évocateur et qui promettait de belles choses. Merde, le film est cool. Alors oui, ça n'est pas très profond, et la construction de l'histoire présente de nombreuses similarités avec l'épisode 4, réduisant pas mal l'impression de nouveauté que l'on aurait pu avoir sinon. Rien que la Starkiller Base est un exemple frappant de ce qu'il ne fallait absolument pas faire. C'est pas seulement que c'est un repompage de l'étoile noire qui est malheureux. Le véritable problème, c'est que malgré le fait que la station soit plus grande, plus puissante, plus impressionnante visuellement, puisque c'est quand même une planète qu'on a transformée en arme, en termes de design pur, c'est super cool. L'idée, elle est top. Malgré tout ça, il n'arrive à aucun moment à en faire quelque chose d'aussi fort symboliquement que l'étoile noire. Personne n'a été marqué par la base Starkiller. Alors on pourra argumenter que c'est aussi parce que le temps n'a pas encore fait son office, et que si ça se trouve, la nouvelle arme tueuse de planètes du premier ordre a fortement touché les jeunes générations lors de la sortie du film, et qu'ils en parleront avec émotion dans les années 2030 et 2040. Mais je ne le crois pas. Déjà parce que quand tu es une copie, un ersatz d'autre chose, en général, c'est assez difficile d'être aussi marquant, surtout que sur tous les aspects, la caractérisation de cette arme de destruction massive est raté. Regardez, la première apparition de chacune des deux stations est relativement similaire entre les deux films. La chose qui fait toute la différence, c'est que l'étoile noire, eh ben c'était la première fois. Et pour l'époque, cette idée d'une base sidérale de la taille d'une petite planète, c'était innovant. On peut aussi ajouter à cela le fait que dans le premier film, on nous la présente en faisant une comparaison de taille avec le destroyer impérial qui, au début du film, avait foutu une claque à tout le monde par sa magnificence. En un seul plan, on comprend immédiatement la taille du truc. Dans l'épisode 7, c'est juste deux TIE Fighters, donc l'effet n'est pas le même. Et plus tard dans le film, lorsque le Faucon Millenium est contraint de s'y poser, on prend bien le temps de marquer son gigantisme via la mise en scène. Ce n'est jamais le cas avec l'autre. Mais la vraie différence se situe au niveau de l'implication émotionnelle et humaine que suppose l'utilisation des deux armes. Ce qui fait la force de l'Étoile Noire passe par de nombreux aspects. Outre la destruction d'Aldorande, qui à nouveau est une première, ce qui marque, c'est surtout que cette planète est le foyer d'un des personnages principaux, la princesse Leia. Cela renforce considérablement la puissance de l'acte, mais la réaction d'Obi-Wan aussi est importante. Le malheur est tel qu'il ressent un bouleversement de la force. Non seulement on comprend que c'est pas n'importe quoi, et en plus cela nous permet d'appréhender le lien qu'entretiennent les Jedi avec leur pouvoir. Ce seul acte nous indique beaucoup de choses sur les personnages et leurs histoires. C'est ça qui en fait un événement marquant. Dans l'éveil de la force, oui, on voit la réaction des gens des planètes détruites, ou celle des témoins de la destruction, et il y a quelques plans bien sympas. Mais ça ne revêt pas autant de sens que dans le film d'origine. Je maintiens pourtant que l'épisode 7 constitue une bonne introduction ou réintroduction à l'univers Star Wars, une vision modernisée qui avait tout pour donner l'eau à la bouche pour la suite. Sauf que la suite, bah c'est l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Un film qui m'avait laissé dubitatif. Je ne savais vraiment pas quoi en penser. Il y avait des aspects que je trouvais très intéressants. Déjà, à nouveau, c'était plutôt beau. On va arrêter de parler de cet aspect parce que c'est clairement pas au niveau esthétique qu'il y a des soucis dans cette post-logie. Le traitement de Luke Skywalker en vieillard désabusé qui, et je sais que les vieux de la vieille ne seront pas tous d'accord, donnait un nouvel angle bienvenu au personnage à mon sens. Mais surtout, cette volonté générale du film de bousculer la fourmilière en proposant une vision qui allait à l'encontre de certains dogmes que la saga avait portés jusqu'alors, notamment vis-à-vis de la force. Un lien avant tout. Une connexion qui doit nous rapprocher plutôt que nous séparer. Une idée qui portait un propos plus global sur l'attachement que chacun peut avoir avec la saga. Un attachement qui bien souvent peut être délétère. Et ça, c'était vraiment super! Malheureusement, dans les faits, ça ne marchait pas très bien. Bon, déjà du fait de l'ajout de personnages inutiles, qui n'étaient là que pour le clin d'œil, ou parce que cela arrangeait scénaristiquement, d'une histoire articulée autour d'une course-poursuite, qui n'était pas très emballante, et qui donnait l'impression d'un véritable manque d'ampleur. Moins d'unité de lieu, de planète, de diversité, et quand ça présentait quelque chose de nouveau, comme la planète Cantobite, c'était raté. Tout ça, c'est un peu compliqué à réellement définir. Il y avait comme une dissonance, tout ça mis ensemble, ça faisait que... Bah que la sauce, elle prenait pas. Et au final, je pense que ce qui a foutu la merde, c'est pas tant le fait que le film cherche à remettre en question des choses des anciens épisodes. Non, c'est surtout qu'il casse absolument tout ce qu'avait mis en place l'épisode 7. Le masque de Kylo Ren, hop, les chevaliers de Ren, rien à battre. Hux qui se posait en antagoniste important dans le film précédent, ridiculisé sans arrêt. Et que dire de Snoke ? Qu'est-ce qu'on a commencé à comprendre ? Eh ben que Disney n'avait absolument rien prévu pour la saga mythique qu'ils avaient payé des milliards de dollars. Ce qui est une dinguerie, mais on en parle après. Et pourtant, à mes yeux, il y a un truc qui aurait pu sauver le film. Pas complètement, mais qui en tout cas aurait donné du sens à toute cette démarche. Les Derniers Jedi auraient dû se terminer par une alliance entre Rey et Kylo Ren. La proposition d'une troisième voie, qui aurait été différente de celle qu'on nous a toujours vendue. Et surtout, qui aurait été beaucoup moins manichéenne. Là, on parle. Là, on prend des risques en proposant du nouveau. Sauf qu'au final... En définitive, un film qui avait des qualités réelles, mais qui ne va jamais au bout de son idée. Et ça, c'est un aveu de faiblesse qui le dessert. Beaucoup de bruit pour rien. Mais si on pensait avoir touché le fond, force est de constater qu'on pouvait encore creuser un petit peu, hein, avec l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Que dire ? Comment expliquer un tel échec ? Déjà, le changement de réalisateur n'annonçait rien de bon. C'était Colin Trevorrow qui était prévu à la base. Alors vous le savez, ce n'est pas un réalisateur que j'apprécie, puisqu'il a commis deux films Jurassic World. C'est pourquoi j'étais plutôt content de le voir partir du projet. Sauf que... Au vu des conditions, reprendre J.J. Abrams était la pire idée possible. Bah oui, parce qu'il a essayé de remettre au forceps les idées qu'il avait à la base, hein, depuis l'épisode 7, et que l'épisode 8 avait consciencieusement déconstruit. Et nous voilà avec un scénario décousu qui nous ressuscite Palpatine d'un coup de baguette magique, des planètes inintéressantes, un jeu de piste digne des pires point and click, un hub qu'on essaye de racheter alors que le mec est littéralement responsable de la mort de millions de gens, encore plus de personnages dont on se fout, sauf Babu Freak, lui je l'aime bien. Un Lando Calrissian qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui ne revient que pour annoncer une future série qui ne verra jamais le jour, etc, etc. Rien ne va. C'est le seul film de J.J. Abrams où l'on s'emmerde un peu, et même s'il ne s'est jamais vraiment exprimé sur celui-ci, le silence est parfois bien plus éloquent, et je suis intimement persuadé qu'il n'en est pas fier. En tout cas, avec ce dernier film numéroté de la saga, nous avions la preuve irréfutable que cette nouvelle trilogie était un poulet sans tête. Disney s'est lancé dedans, sans savoir où ils allaient. L'objectif premier était de rentabiliser à tout prix, et surtout rapidement, l'achat de la saga.
Une démarche d'un cynisme absolu, parce qu'ils savaient très bien qu'on allait aller les voir, indépendamment de la qualité réelle de la chose. Et même s'il y allait avoir une déperdition hein, au fur et à mesure des épisodes, bah, la machine à billets allait suffisamment tourner pour justifier le tout. En somme, une version court-termiste, négative pour la création, mais au final, pertinente d'un point de vue financier, avec un résultat cumulé au box-office d'environ 4,5 milliards de dollars, une somme supérieure à celle de l'achat de 4,5 milliards. Donc, un épisode 7 un peu inoffensif mais divertissant, et qui avait le mérite de promettre à minima un récit d'aventure agréable pour la suite. Un épisode 8 qui fout tout par terre, avec du bon, mais surtout du catastrophique, et un épisode 9 complètement perdu, qui cherche à conclure tout ça coûte que coûte, pour passer à autre chose, et notamment une chier de série à la con, sauf Andor. Andor, c'est exceptionnel. Mais au-delà de tous ces défauts, et encore, j'ai fait l'impasse sur beaucoup d'entre eux, hein, sinon la vidéo aurait duré 2 heures, il y en a un qui pour moi est la preuve irréfutable du ratage de cette nouvelle trilogie, mais qui en plus démontre également à quel point Disney a manqué de jugeote dans sa propre démarche, c'est-à-dire jouer sur notre nostalgie. Et ce défaut, personne n'en parle. Et pourtant, il concerne l'un des personnages les plus emblématiques de la saga, Chewbacca. Ah, Chewbacca. Chewie pour les intimes, ou Chick Tabba et Chico pour les inconditionnels de la VF du premier film.
Allez Chico, on fait la gauche !
Un personnage qui nous suit depuis les débuts de la saga. Tout le monde connaît Chewbacca, même les gens qui n'ont jamais vu Star Wars. Sa grande masse poilue a profondément marqué la pop culture. Pourtant, il faut bien reconnaître que Chewbacca n'a jamais eu un rôle important. Même dans la trilogie originelle, notre boule de peluche préférée n'a jamais été autre chose que ce que son positionnement symbolique lui imposait, celui du compagnon loyal. Un archétype narratif que l'on retrouve depuis la nuit des temps. Enkidu de Gilgamesh, Sam pour Frodon, Groot des Gardiens de la Galaxie, 30-30 de Brave Star, ou encore le copilote du Nexus 6. Une figure qui fonctionne parfaitement, car pour le public, elle représente un socle affectif stable, dans un univers qui souvent est en proie au chaos. Fidélité, dignité, force, mais aussi tendresse, le compagnon loyal est central dans le récit, toujours présent, tout en étant bien souvent complètement de côté. Et on le constate bien dans les premiers films, Chewbacca ne se définit que par Han Solo, sa relation avec lui, leur vécu commun. De plus, il ne s'exprime pas, ou peu, et toujours de manière cryptique. La seule fois où il a une histoire qui lui est propre, c'est lorsqu'il retrouve les parties du corps de C-3PO et commence à le remonter dans l'Empire contre-attaque. Ça dure 5 minutes. Et on aurait pu penser que la capture de Solo à la fin du film aurait pu lui permettre de prendre son envol. Mais au final, on ne fait que l'affubler d'un autre socle, Lando. Et même lorsqu'on le retrouve captif de Jabba au début du Retour du Jedi, tout finit par rapidement rentrer dans l'ordre. Chewbacca est condamné à son rôle symbolique. Alors outre son positionnement, c'est aussi évidemment sa nature qui le condamne à tout cela. Le fait qu'il soit un extraterrestre, qu'il ne parle pas vraiment, qu'il soit aussi imposant. En cinéma, c'est sûr qu'il va être difficile d'en faire un personnage plus important, sans prendre certains risques. Et vous le savez bien, le cinéma grand public, a fortiori américain, n'est pas très enclin à en prendre. Toujours est-il que c'est un personnage qui a acquis une réelle sympathie. Et c'est bien pour cela que George Lucas l'a fait revenir dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. Oui, parce que rappelons tout de même que si aujourd'hui on critique fortement la postlogie pour son aspect nostalgique, allant jusqu'à la renommée la nostalgie, et qu'on a tendance même à redorer un peu le blason de la prélogie, on oublie bien vite que les épisodes 1, 2 et 3 sont bourrés d'easter eggs dégueulasses. L'apparition de Chewbacca en est un particulièrement mauvais. Il n'est là que pour faire vibrer la fibre nostalgique des fans. Yoda est sur Kashyyyk, il rencontre Tarful et Chewbacca, ce dernier ne fait rien, il est juste là. Ah si, pardon, il porte Yoda sur son dos. Tout ça pour amener à cette tirade.
Au revoir, Chewbacca. À moi aussi, vous manquerez.
On est dans une galaxie gigantesque, et il fallait que Yoda et Chewbacca se connaissent. Hein ? C'est nul, fainéant, ça n'a aucun sens, aucune substance, ça ne dit rien. Les séquences sur Kashyyyk auraient pu se faire sur une autre planète, que cela n'aurait rien changé. Non, tout ça, c'était juste pour montrer des Wookiees et Chewbacca. Une preuve supplémentaire de la pauvreté artistique que constitue la prélogie. Et à mon sens, George Lucas est même presque l'inventeur de l'easter egg excessif moderne, systématiquement conspué. Et pire, c'était de l'autocitation. Tout le monde semble l'oublier, ça. Ça montre bien la position qu'il avait à l'époque, et à quel point plus personne ne remettait en question son travail, notamment sur Star Wars. Elle a laissé faire tout ce qui lui passait par la tête. Mais aussi à quel point lui-même était absolument incapable d'aller chercher d'autres avis, d'autres sensibilités pour essayer d'accoucher de bons films, tout simplement. Mais bon, bref. Revenons-en à notre cher Chewbacca. Le capital sympathie dont il bénéficie, on le remarque aussi dans l'univers étendu de Star Wars, qui n'est plus canon aujourd'hui. Et notamment dans sa mort, sur la planète Cernpidal, où il se sacrifie en sauvant in extremis Anakin Solo, le fils de Leia et Han. Une fin logique, pertinente et belle pour ce personnage, qui aura de réelles répercussions sur Solo par la suite. Donc l'univers étendu avait réussi, au moins, à donner une mort digne et pleine de sens à Chewie. Et le fait que la postlogie avait tiré un trait sur toute cette partie de l'univers était l'occasion rêvée pour faire revenir le personnage, de lui donner plus de consistance, de l'explorer davantage, de lui donner enfin la place qu'il mérite après tant de films et de bons et loyaux services. Dans l'épisode 7 au départ, rien de bien différent avec son traitement précédent. Il est là en support et comme comic relief, jusqu'à un événement. Ici, il y a tout. Le meurtre de Han Solo par son fils est un événement majeur. Pas juste pour nous, spectateurs, et notamment moi, puisque vous vous doutez bien de l'impact qu'a eu ce personnage sur ma vie. Non, l'important c'est Chewbacca, et le cri déchirant qu'il pousse lors de cet événement prouve la douleur qu'il ressent, et sa réaction juste après n'est pas anodine. À cet instant, Chewbacca, il ne tire pas juste sur l'assassin de son ami. Ce qui se joue là, c'est pas uniquement le fait de se venger d'un ennemi lambda. Là, il fait feu sur son neveu, sur Ben Solo, le fils de ses meilleurs amis, qu'il a certainement vu naître, qu'il a gardé certains soirs. Il a dû jouer avec lui, lui apprendre des trucs. Ils ont toute une vie commune, ces deux personnages. La postlogie, elle a donc tous les ingrédients pour créer quelque chose de génial. Un Chewbacca meurtri, trahi par un être qu'il aime, qui va s'enfoncer dans le ressentiment, la colère. Enfin, on va pouvoir voir des couches différentes de sa personnalité, qui va lui donner un rôle autre que celui de faire valoir. Mais la postlogie n'en fait absolument rien. Et en tant que défenseur du 7, j'aimerais pouvoir dire que c'est à partir du 8 que tout est parti en couille à ce niveau-là. Mais c'est pas vraiment le cas. Après la mort de Solo, Chewbacca rentre en mode rage. Bon, réaction jusqu'ici logique. Mais ensuite, il disparaît complètement avant de réapparaître pour sauver la mise à Rey et Finn. Tout le monde retourne vers la base rebelle, et là, Leia débarque. Chewbacca est présent. C'est le moment parfait pour qu'ils se prennent dans les bras, que les deux vieux amis communient ensemble et trouvent du réconfort dans leur perte commune. Ah non, autant pour moi. Chewbacca a l'air de s'en être vite remis, quoi. Mais c'est pas mieux dans le 8 et le 9. Sa première apparition se fait face à Luke, et là, il a effectivement une petite réaction. Mais ensuite, absolument plus rien. Et à la fin du film, il n'aura même pas droit à une séquence pour la mort de son ami. Ah, enfin, un petit câlin! Sauf qu'ils ont juste l'air contents de se retrouver, hein. Le frère de l'une et l'un des meilleurs amis de l'autre est mort, mais y a rien à se dire, hein, en effet. Et c'est encore pire dans l'ascension de Skywalker, où déjà, on a remplacé Han par Poe. Chewbacca a l'air de ne jamais penser à ses amis disparus. Allez, on essaye de créer un tout petit truc avec la mort de Leia, tout de même. Ah, il a l'air un peu triste, là. Est-ce que ça va enfin donner quelque chose?
Eh bien, on a besoin de toi.
Ah ok, bah voilà, c'est fini. Bon bah on y retourne, hein. Ils ont pas juste raté le traitement évident et presque obligatoire, il faut le dire, de cet axe de développement du personnage. Ils ne l'ont pas traité, et c'est fou. Même lors de l'éternelle réunion de fin, il n'a pas la place qu'il mérite. Là, il prend machin dans ses bras, il parle avec truc, tout le monde s'en fout. Le seul échange qu'il a, c'est avec Maz Kanata, personnage lui aussi assez mineur au final, qui lui rend sa médaille de la fin de l'épisode 4. C'est tout ce que vous avez à proposer. On avait vraiment besoin d'une autre merde nostalgique. Même lors des retrouvailles finales des personnages principaux, il est au fond dans le flou. Alors c'est aussi le cas de 6PO et de R2-D2, hein. Et je peux le comprendre lorsqu'on a été tout au long de la trilogie dans une démarche de mettre en place de nouveaux personnages. Mais Chewbacca est à mon sens un cas particulier qui, du fait de l'importance de Kylo Ren dans le récit et la forte présence du trio de héros des anciens films, aurait dû avoir un traitement plus important. Là, il y a presque un manque de respect envers le personnage et on constate à quel point on ne l'a jamais pris au sérieux. Chewbacca est une coquille vide. Il a toujours été traité ainsi et c'est une faute profonde de cette postlogie de ne pas avoir changé ça. Surtout que par ailleurs, tout du moins dans l'épisode 7, on pouvait sentir certaines intentions dans le fait d'aller à l'encontre des positions classiques de certains archétypes de la saga. On le voit très clairement avec le personnage de Finn, qui, rappelons-le, était à Stormtroopers à la base. Il était très rare auparavant que la saga humanise ses personnages. Franchement, à part cette scène...
Dis donc, t'as vu le nouveau XT-16 ?
Tout le reste, c'était... C'était des sbires lambda, de la chair à canon. Avec Finn, il y avait la volonté, justement, de casser cela et d'explorer d'autres aspects de cet univers. Et je ne m'explique pas qu'il n'ait pas eu la même démarche pour Chewbacca. Surtout venant de trois films qu'on a qualifiés comme étant ceux de la nostalgie. Chewbacca est un aspect nostalgique de l'ancienne saga. Mais même dans cette démarche, la postlogie n'a pas bien fait son boulot. Chewie, il aurait pu être ce point d'ancrage qui aurait rallié les anciens, et en plus, bah, ça aurait porté énormément de sens. Il aurait pu partir dans une quête vengeresse, se laisser consumer
stimulé par celle-ci. Ça aurait fait un parallèle thématique avec le côté obscur et clair de la Force. Avoir une confrontation avec Kylo Ren. Ça aussi, ça me rend fou. Jamais ils ne se reverront des trois films. Ça aurait pu faire renaître de la lumière chez ce dernier. Il y avait plein de choses à faire. Mais surtout une, Chewbacca aurait dû mourir dans cette nouvelle trilogie. Il aurait pu se sacrifier d'une manière ou d'une autre pour un des nouveaux personnages. Ça aurait à la fois passé le flambeau et donné une fin épique à ce héros que nous aimons toutes et tous. La mort d'un compagnon loyal, c'est toujours narrativement et émotionnellement fort. Limite plus que certaines têtes d'affiche. Et le caractère animal de Chewbacca et son rôle, je trouve qu'il fait transparaître chez lui une forme d'innocence. Un peu la même que celle que l'on prête souvent aux animaux de compagnie. Et vous le savez aussi bien que moi, le décès d'un de ces êtres, ça fait toujours plus mal. Et au milieu de tout le marasme qu'ont été les épisodes 7, 8 et 9, ne pas avoir eu l'idée d'aller jusque-là, c'est bien leur plus grande faute. Et au final, si ça n'est pas Chewbacca qui est mort avec cette postlogie, c'est certainement notre innocence vis-à-vis de Star Wars qui, elle, n'est certainement plus là. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Je serai présent au Festival des Mycéliades jusqu'au 14 février. C'est un festival de SF dans toute la France, avec des conférences et des diffusions de films. Lorsque vous verrez cette vidéo, je serai encore de passage à Paris, Granville, Coutances, Martigues et Montreuil. Vous avez toutes les informations sur le site des Mycéliades, j'espère vous y voir nombreux et nombreux, parce que c'est l'occasion de se rencontrer, et moi j'adore ça. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo Nexus 6 Get Funky Deliver Die est toujours en cours. Donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à le soutenir, c'est uniquement grâce à vous, notre communauté, que ce sera possible. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne, une réaction à chaud sur le deuxième film, 28 ans plus tard, en compagnie de Slex Snow, ainsi que la vidéo précédente sur mes attentes 2026 en matière de science-fiction. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute votre famille et vos amis, et n'hésitez pas à la booster également. Et pour vous qui n'êtes pas abonné, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.